Que le nom de Jésus soit béni et que Dieu notre Père céleste soit glorifié. À mon tour de vous saluer, mes bien-aimés frères et mes sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous, mes bien-aimés, ce matin? Ça va? Donc vous avez passé une bonne nuit et nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, étant au bénéfice de sa promesse. Quand deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus-Christ est au milieu de nous et en même temps qu'il est au milieu de nous, il est présent comme étant celui qui est l'auteur de notre salut, comme celui qui un jour est venu du ciel pour chercher et sauver les pécheurs, qui a livré sa vie pour verser son sang, accomplissant ainsi tout ce qu'exigeait la justice et le jugement de Dieu. Et en cela, là où le jugement de Dieu nous était réservé à cause du péché qui dominait sur nous, en vertu de la grâce de Dieu qui nous a été accordée, eh bien, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la puissance de Satan à la toute-puissance de Dieu. Et nous avons pu enfin quitter la main du destructeur pour revenir sous la main du Créateur. Étrangers aux alliances de la promesse, chacun suivait sa propre voie, semblable à des brebis errantes, semblable ensuite à des brebis égarées, ou terminées par des brebis perdues. Mais béni soit Dieu qui avait fixé en lui-même un dessein bienveillant. Et ce dessein bienveillant était en rapport avec le mystère de sa volonté, le conseil de sa volonté et le bon plaisir de sa volonté. Vous avez dit que dans ce cadre-là, ni vous ni moi n'avons rien à voir. Mais Dieu avait tout préparé. Et il avait tellement préparé les choses que nous avons eu l'occasion un jour d'avoir part à l'écoute de l'Évangile. Ce n'est pas nous qui avons cherché le Seigneur, c'est lui qui nous a cherchés. Et comme le bon berger cherche la brebis, alors il nous a cherchés de manière méticuleuse et c'est lui qui par le Saint-Esprit nous a attirés vers lui. Et dans cet attrait, il avait préparé ce que l'Écriture mentionne comme étant la conviction. Nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nous, parce que nous étions meilleurs que les autres, c'est le travail de Dieu. Et je comprends pourquoi le Saint-Esprit, dans la bouche de l'apôtre, la bouche du prophète, peut mentionner « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, dans ce culte que nous sommes venus rendre à Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit en nous a mis ses bonnes dispositions. Que nous soyons présents, et non seulement notre Père Céleste approuve notre présence, nous sommes là pour réjouir son cœur, nous sommes là pour écouter ce qu'il a à nous dire avec le désir de pratiquer ce qu'il va nous dire dans le but de nous efforcer de lui être agréable. Vous rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, a mis une priorité divine en évidence dans le sermon sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire les choses d'en haut. Cherchez le royaume de Dieu, les choses d'en haut. Cela veut dire que il veut nous mettre sur le terrain de la pratique de la piété, parce que la piété, c'est l'amour pour les choses du ciel, d'en haut, qui par le Saint-Esprit va produire en nous cette dévotion pour la pratique. Donc un travail spirituel. Nous sommes bénéficiaires, mais nous ne sommes pas l'auteur. L'auteur en nous, c'est Dieu et le travail du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, comme cela nous a été dit, eh bien, dans le message que nous avons partagé hier matin, hier après-midi plutôt, que après avoir parlé à ses disciples, notre Seigneur Jésus-Christ va les amener sur un terrain où dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, Jésus leur dit, « Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, afin que vous soyez assis sur 12 trônes et que vous jugiez les 12 tribus d'Israël. Mais je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père en a disposé en ma faveur. » Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs en Christ, dans ce que Jésus leur dit, il les amène littéralement comme un peu nous avons été placés sur le chemin de la persévérance. Une fois qu'on a cru pour le salut, Dieu nous a placés sur le chemin de la persévérance. Et dans ce chemin de la persévérance, il faut que nous soyons conscients que comme enfants de Dieu, étant objet de son alliance, étant objet de sa grâce, Dieu ne nous a jamais promis que tous les jours, le baromètre spirituel sera au beau fixe. Non, dans la vie chrétienne, il y a des moments où le ciel est d'airain. Il y a des moments où nous sommes confrontés à une hostilité particulière de l'ennemi de nos âmes. Il va déployer toutes sortes d'artifices pour que, s'il était possible, nous soyons arrêtés sur le chemin de la persévérance. Il va employer des stratégies comme la séduction ou la tentation. Et en cela, frères et sœurs en Christ, il arrive quelquefois qu'il nous propose des gâteaux empoisonnés. Écoutez, lorsque vous lirez les Saintes Écritures, vous voyez qu'il y avait deux rois qui s'opposaient particulièrement à l'avancée d'Israël vers le pays de la promesse. L'un s'appelle Sion, roi de Hesbon, et l'autre s'appelle Og, roi de Bazan. Sion, cela signifie le déracinant. Et Og, cela signifie gâteau. Et bien, c'est exactement ce qu'a fait l'ennemi. S'il était possible, il essaye de nous déraciner de Christ. Mais dites avec moi, il est vaincu. Il a beau essayer, il ne peut pas y arriver. Og signifie gâteau. Eh bien, c'est le summum ou le principe même de la séduction. Nous fait miroiter des choses qui semblent belles, attrayantes, agréables. Mais lorsqu'on gratte un petit peu, c'est du poison pour notre âme. Oui, yes. Amen, gloire à Dieu. Oui, frère. Je suis d'accord avec vous, frère. C'est parce que, frères et sœurs en Christ, dans la vie chrétienne, eh bien, il y a des moments où nous pouvons, comme enfants de Dieu, être confrontés à des situations qui sont difficiles. Et lorsque nous déterminons, eh bien, ce qu'il y a derrière ces situations difficiles, cela ressemble beaucoup à ce qu'on aurait pu définir comme étant un passage à vide. Depuis que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous n'avez jamais connu des passages à vide? Eh bien, oui, il y a des passages à vide dans la vie chrétienne. Et quand le passage à vide, eh bien, nous l'expérimentons, cela peut produire quelquefois, frères et sœurs en Christ, autant, premièrement, le découragement, qui fort souvent est accompagné du relâchement. Le découragement et le relâchement dans la vie chrétienne, cela peut être le partage d'un enfant de Dieu. Mais béni soit Dieu, quand notre Seigneur Jésus-Christ, qui bâtit l'Église et qui a fait de nous ses disciples et des enfants du Père, eh bien, manifeste son secours, eh bien, l'enfant de Dieu reçoit à bon escient le secours, malgré le fait qu'il passe par un moment difficile, par un moment où il peut considérer cela comme un passage à vide. Et c'est dans ce cadre-là que ce matin, le Seigneur va nous donner à considérer sa parole. Vous remarquerez que je n'ai pas posé la question de prime abord, parce que Dieu connaît chaque situation ce matin. Écoutez, laissez-moi vous dire que si je regarde un peu ce qui se passe dans le monde par rapport à la situation sur le plan sanitaire, Covid-19, mais j'écoutais les nouvelles dernièrement et d'après ce que j'entendais, que parmi la jeunesse, beaucoup sont un petit peu décontenancés et les cabinets de psychiatrie n'ont jamais été aussi remplis qu'aujourd'hui. Et paraît-il même qu'il y a un psychiatre qui avait pour but de recevoir des patients dans son cabinet. Et le frère Moïse me disait la semaine dernière que lorsque quelqu'un est allé le voir dans son cabinet par rapport à sa situation sur le plan psychiatrique, on lui a dit que ce psychiatre qui était appelé à recevoir des patients, il s'est suicidé. Parce que, mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ, il y a des moments où il y a des passages qui sont tellement des moments difficiles que malheureusement certains mettent fin à leur jour. Ils estiment que c'en est assez. Et dans ce cadre-là, laissez-moi vous dire qu'il y a un qui n'est pas au chômage du tout, c'est Satan. Il a une manière tellement subtile de faire croire à l'être humain que s'il met fin à ses jours, eh bien, les choses seront réglées. Mais laissez-moi vous dire que quand quelqu'un met fin à ses jours, ce n'est pas nécessairement qu'il veuille mourir, c'est parce qu'il veut arrêter de souffrir. Mais béni soit Dieu ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Il connaît la situation qui est la tienne et je voudrais vous amener déjà à faire avec moi une lecture dans la parole de Dieu. Par exemple, vous regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, dans Ésaïe 42, les versets 1 à 4. Certes, c'est une prophétie concernant le Seigneur Jésus, mais où je vais vous amener, c'est à ce que je viens de vous expliquer, que fort souvent, le découragement est associé au relâchement et le relâchement est associé au découragement. Alors, regardez comment le Saint-Esprit, dans la bouche du prophète Ésaïe, amène la révélation ou l'oracle divin. « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Ésaïe 42, verset 1er. « Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point et n'élèvera point la voix. » Il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, merci Seigneur. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, merci Seigneur. Il annoncera la justice selon la vérité. Et voici le verset 4 qui nous intéresse, pour voir qu'il y a une association entre le découragement et le relâchement. Regardez, il ne se découragera point et ne se relâchera point, et ce, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et nous avons derrière ces paroles prophétiques un peu une vision de ce qu'a été le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Investi pour la gloire du Père, désirant tout au long de sa marche, pendant le temps où il a été pèlerin et voyageur ici-bas, allant de lieu en lieu faisant du bien, cherchant toujours à ce que le Père soit glorifié dans son action, dans ses actions, jamais notre Seigneur n'a baissé les bras. Pourtant, il a connu l'opposition, l'hostilité. Il a connu bien des fois, sa vie a frisé la mort, on cherchait à le tuer, mais il ne s'est jamais ni découragé, ni lassé jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice sur la terre. Que son nom soit béni. Et mes frères et sœurs, Christ vous dit que dans la vie chrétienne, par exemple, quand nous regardons dans le psaume 69, il y a ceux qui nous ont précédés, qui ont connu des moments particuliers. Et l'un d'entre eux s'appelait David. Regardez avec moi David dans le psaume 69. Regardons le cri à Dieu
verset 14. Psaume 69, verset 14. Le psaume 69, verset 14. Mais je t'adresse ma prière au Dieu, au Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Et puis, après, il continue. Que le flot ne m'inonde plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la force ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, car ta beauté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Et voici la conclusion. Puisque je suis dans la... Hâte-toi de m'exaucer. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. La détresse, c'est quoi? Ou qu'est-ce qui produit la détresse? Et la détresse, c'est le résultat d'une absence de solution et de l'épreuve qui dure. On n'en voit pas la fin. David a connu des moments de détresse. Et il s'adresse à Dieu. Pourtant, dans le même psaume, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Un peu plus haut, psaume 69. Regardez avec moi au verset où nous allons trouver dans son expression ce qui ressemble fortement à un engagement, mais aussi à la consécration. Psaume 69, le temps de trouver ma page. Regardez. Verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Un inconnu pour le fils de ma mère. Ça s'est littéralement accompli en Jésus-Christ. Hein? Un inconnu pour le fils de ma mère. Pourquoi? Ah, car le zèle de ta maison me dévore. Et cette parole que nous venons de lire marque autant tout l'engagement, mais aussi la détermination pour l'œuvre de Dieu, accompagnée de la consécration. C'est-à-dire, il est éprouvé tout en servant son Dieu. Et Jésus était éprouvé en servant l'Éternel, son Dieu, son Père. Alors si Jésus a été éprouvé, si David a été éprouvé, moi en tant qu'enfant de Dieu, je peux être éprouvé aussi. Je peux tellement être éprouvé que je peux connaître le découragement. Et le découragement que je peux connaître peut m'amener au relâchement. Peut-être ce matin, mon frère, ma soeur, c'est ton cas. Et si c'est ton cas, personne n'a le droit ni de te montrer du doigt, ni de voir à ton égard une opinion personnelle. C'est Dieu qui pèse les cœurs. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais c'est aussi lui qui pèse les intentions. C'est lui qui connaît la situation qui est la tienne, il a dans sa main toutes les données. Mais ce matin, ton Père Céleste n'est pas là pour t'écraser. Il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te montrer du doigt, pour dire ce que peut-être tu as entendu. Soi-disant qu'il est chrétien. Non! Mais il a le pouvoir et la capacité de te donner à saisir cette opportunité pour t'ouvrir la porte de la sortie du découragement. Processus de ton relèvement. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes éprouvés et que nous passons par un moment de découragement, il y a deux attitudes possibles. L'une, on peut l'adopter, mais en l'adoptant, dans la finalité, elle va se révéler sans effet. Donc, pas le bon choix. Et l'autre, va produire son effet parce qu'elle sera gouvernée par la main de Dieu, par l'action du Saint-Esprit et dans la conformité à sa parole. Voulez-vous que je vous donne les deux aspects pendant quelques minutes? Bien. Il y en a ceux qui ont dit amen et les autres alors. Regardez avec moi les Saintes Écritures. David, lui, a connu des moments difficiles. Il est roi d'Israël. Il dirige les deux royaumes, le royaume du sud et le royaume du nord. Dieu l'a choisi. C'est un instrument dans la main de Dieu. Et voici qu'il passe par un moment difficile. Et dans ce cadre-là, nous le voyons recevoir du secours dans 1 Samuel, chapitre 19, verset 12. 1 Samuel 19, 12. Il va recevoir un secours qui n'est pas négligeable, qui n'est pas inutile, mais qui nous donne maintenant, nous-mêmes, enfants de Dieu, ce matin, à regarder et à tirer leçon de ce que nous lisons, c'est-à-dire de son expérience. 1 Samuel 19, verset 12. Mais pour plus de clarté, prenons le verset 11. Je récapitule 1 Samuel 19, verset 11. Quand vous serez chez vous, vous pourrez lire tout le chapitre, mais prenons le verset 11. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Donc, ce n'est pas rien. On garde votre maison pour vous faire mourir. Si moi, je garde votre maison pour vous faire du bien, à la rigueur, ça peut aller, même si c'est humain. Mais garder la maison pour le faire mourir, cela veut dire que sa vie tenait à un fil et il était en grand danger. Mais Michal, sa femme, femme de qui? Femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Donc sa vie tient à un fil et il trouve, béni soit Dieu, l'appui de Michal, sa femme, qui est le moyen d'échapper. C'est bien, mais c'est humain. Donc les appuis humains ne sont pas nécessairement mauvaises, mais même si elles sont utiles quelquefois, ce n'est pas ce que Dieu attend. Regardez la suite. Verset 18. Toujours en passant par un moment difficile. C'est ainsi que David prit la fuite, qu'il échappa et se rendit auprès de Samuel, ou à Rama. Et qu'a-t-il fait auprès de Samuel? Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel pour demeurer à Najot. Samuel était prophète. Dieu avait utilisé Samuel pour oindre David. D'abord le choix et l'onction. Mais quoique Samuel soit un prophète de Dieu, le premier prophète d'Israël, utile dans la main de Dieu, Samuel était prophète, mais Samuel n'était pas Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous passez par le découragement, les ministères sont utiles pour le service de Dieu dans l'Église. Avec les anciens, mais nous ne sommes pas Dieu. Ne mettez pas votre appui dans le pasteur. Ne mettez pas votre appui sur l'ancien. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque que vous soyez déçu. Bon, n'allez pas dire que le pasteur gentil a dit qu'il ne faut pas venir vers lui, hein, ni aller vers les anciens. Comprenez mon expression. Ne mettez pas votre appui sur le pasteur. Parce que le pasteur lui-même a besoin d'un appui. Ben oui, si je vous disais à partir de maintenant, vous pouvez tous vous appuyer sur moi, eh bien, il n'y a pas bel lieu que je proclamerai par mes propos ma folie et je vous induirai en erreur. Et puis Dieu ne serait pas content après moi. Troisièmement, 1 Samuel 20, versets 1 à 2. Il est allé près de Samuel à Rama, il a demeuré auprès de lui à Najot. Mais regardez maintenant, David s'enfuit de Najot. Il s'enfuit de Najot près de Rama. Donc ça veut dire que ce n'était pas si bien là où il était avec Samuel, puisqu'il va s'enfuir. Et en s'enfuyant, il alla trouver Jonathan. Jonathan et David avaient un lien particulièrement serré. Jonathan, c'était un intime de David, puisque la Bible nous dit qu'ils avaient fait alliance et qu'il l'aima comme son âme. Il était engagé à son côté, mettant de côté le trône qui devait lui revenir. Il avait compris que Dieu avait choisi David pour régner sur Israël à la place de son père. Alors il s'est rangé de son côté et il a tout fait pour que David soit dans le plan de Dieu. Donc c'était un intime. Mais quoi qu'étant intime, quoi qu'ayant fait alliance ensemble, Jonathan était Jonathan, mais Jonathan n'était pas Dieu. Qu'ai-je fait ? Et quel est mon crime, quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Et dans cette alliance qu'ils avaient faite, David a trouvé du soutien auprès de Jonathan. Mais Jonathan n'était pas Dieu. Jonathan, c'était un homme, fils du roi, donc prince, mais il n'était pas Dieu. Alors regardez avec moi maintenant, frères et sœurs en Christ, nous avons vu trois appuis. Mais dans le découragement, je crois qu'il a su tirer profit de ses expériences passées. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Et notez bien, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et j'ai trouvé ça quand même extraordinaire, ça veut dire que l'épreuve était costaud. Hein. Ils ont versé des larmes, mais jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et après avoir versé des larmes, verset 5, les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoan de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une petite angoisse. Ah non, dans une grande angoisse. David fut dans une grande angoisse, pourquoi? Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous étaient dans l'amertume. Parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Donc cela veut dire que dans ce moment-là, il était la cible. Si ça arrive, c'est à cause du roi. C'est lui le responsable. On le tient pour responsable de la situation. Fixation personnelle. Amertume dans le cœur. Et laissez-moi vous dire que ça y allait de tous côtés. Et dans ce moment-là, ce n'est ni Jonathan, ni Samuel, ni Abigail, ni Michal, pardon. Mais, regardez, le verset suivant, tous avaient l'amertume à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, dites avec moi, il reprit courage en s'appuyant sur... Alléluia! Voici mon frère, ma soeur, la solution ce matin. Tu vas reprendre courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas du pasteur que tu as besoin. Ce n'est pas de l'ancien que tu as besoin. Ce n'est pas de ta femme que tu as besoin. Certes, elle peut être utile, mais tu as besoin ce matin de t'appuyer sur ton Dieu. Et quand Dieu voit que tu t'appuies sur lui, alors maintenant, le processus du secours est enclenché et tu seras comme l'expression de David dans le psaume 57. Je crie au Dieu très haut qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Et ce même si mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra son secours. Alléluia. Vous savez que Dieu aime lorsque nous nous confions en lui. Il aime non seulement que nous nous confions en lui, mais il aime entendre dans nos bouches ce que nous avons dans le cœur. Il aime voir une attitude positive que nous prenons comme son enfant, comme David. Qu'a-t-il fait? Certes, nous lisons, il reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Mais il n'est pas dit, je m'appuie sur mon Dieu en restant les bras croisés à regarder le ciel. Hein? Non, il s'est mis tout de suite au travail. Qu'a-t-il fait, premièrement? Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiata, fils d'Achimélec, apporte-moi les fautes. Comment ça, il demande les fautes? Les fautes, c'est un matériau, un instrument que le sacrificateur utilisait dans des moments particuliers lorsqu'il devait officier en accomplissant ce que Dieu avait résolu devant se manifester lorsqu'il officiait dans la sacrificature. Et logiquement, David n'avait pas le droit de revêtir les fautes. Il n'était pas sacrificateur officiel. Vous savez ce qu'étaient les fautes? Savez-vous ce qu'étaient les fautes? Ah ben voilà, répondez. Répondez, ce n'est pas une tare de ne pas connaître, puisque mon travail pastoral, c'est de vous l'expliquer. Les fautes, c'était une espèce d'étoffe que le sacrificateur qui officiait devait se revêtir sur l'épaule. Et lorsqu'il revêtait les fautes, ça avait une grande signification devant la présence de Dieu. Cela montrait que désormais, non seulement il allait s'approcher de Dieu dans un désir de recevoir l'oracle divin, mais surtout de recevoir une réponse de Dieu, eh bien, par rapport à la situation à laquelle il était confronté. Lorsqu'on revêtait les fautes, je l'avais dit, on s'attendait à Dieu. On s'attendait que Dieu nous parle, que Dieu nous réponde, que Dieu s'adresse à nous, que Dieu nous révèle comment faire. Donc, il va demander à Abiata, apporte-moi les fautes. Et logiquement, Abiata qui aurait dû dire, non, tu n'as pas le droit, non. Abiata se soumet, il apporte les fautes parce que dans un moment particulier, il va manifester une grande spiritualité. Frères et sœurs en Christ, quand nous sommes dans l'épreuve, je sais que ça peut ressembler à un non-sens, mais quand nous passons par le découragement, ce n'est pas le moment de laisser le relâchement gagner, mais dans le découragement, Dieu veut que nous puissions prendre un temps devant sa face. Comme si nous secouons le trône de la grâce. Comme si nous crions à Dieu parce que c'en est assez. Seigneur, je veux m'en sortir. Et n'oubliez pas que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ou à moins que nous puissions laisser le relâchement nous gagner. Dieu, Seigneur, si c'est comme ça, ben, moi j'en ai assez. Si c'est comme ça, Seigneur, je prends du recul. Attention, ne laissez pas Satan vous donner une excuse hein, pour pouvoir maintenant justifier votre attitude. Non, ne laisse pas le découragement m'amener au relâchement. Mais au contraire, comme David, je m'appuie sur l'Éternel, mon Dieu. Comme David, eh bien, je prends un temps particulier, je vais chercher mon Dieu. Et parce qu'il a revêti les fautes, il ne va pas simplement revêtir les fautes, hein, mais avant que Dieu ne lui réponde, c'est lui qui va parler à Dieu. Écoutez, dans le découragement, il y a quelqu'un qui est disposé à t'écouter. Jésus-Christ est disposé à t'écouter. Et laisse-moi te dire que, si tu permets que je te tutoie, laissez-moi vous dire que dans le découragement, Eh bien, lorsqu'on va trouver le Seigneur Jésus-Christ, on peut lui dire tout, sans restriction. On peut lui ouvrir son cœur. On peut répandre son âme. On peut verser de larmes. Dites-lui tout. Et soyez rassurés que Jésus-Christ ne va jamais rapporter à quiconque ce que vous allez lui confesser entre vous et lui. Alors que va-t-il faire? Nous avons vu qu'il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu, n'est-ce pas? Regardez son attitude. Verset 8. Bon, il a revêti les fautes parce qu'il désire vraiment une réponse de Dieu, mais avant que Dieu lui donne la réponse, c'est lui qui va parler à Dieu. Regardez. Et David consulta l'Éternel en disant, deux questions. Poursuivrai-je cette troupe? Et avant que Dieu ne réponde, il pose une deuxième question. L'atteindrai-je? Et vous savez bien qu'avec moi, vous savez bien, pas qu'avec moi, vous savez bien avec moi, que devant Dieu, à question claire, réponse. Arrêtons de jouer à cache-cache avec le Seigneur. Ils vont lui dire les choses clairement. Seigneur, le découragement, c'est parce que je suis tombé, j'ai chuté. Disons-le lui. Le découragement, Seigneur, parce que j'ai pris des engagements sans attendre ta direction. Il faut le lui dire. Mais bien sûr, écoutez, communément, on dit qu'il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où on se trompe. Il faut reconnaître ses erreurs. Parce que le processus de la sortie du découragement passe par la reconnaissance de ses erreurs. Écoutez, quelqu'un avant moi a dit, j'ai dit à l'Éternel, je ne cacherai pas mes transgressions. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et que s'est-il passé? Et tu as pardonné la peine de mon péché. Que si tout homme puisse te prier autant convenable. Alors si de grandes eaux débordent, les grandes eaux de l'épreuve, elles ne te submergeront point. Alors il va poser la question à Dieu. Deux questions claires. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et je viens de vous dire à question claire. Réponse claire, il est toujours revêtu de l'effort. Hein. Il attend une réponse de Dieu. Hein, par rapport à la situation à laquelle il est confronté. Par rapport au fait qu'il s'appuie sur l'Éternel, on reprend un courage. Alors est-ce que Dieu va accentuer le découragement? Non. Dieu n'accentue pas le découragement. Parce qu'il fait, il voit que ce que nous faisons, ce qu'il a entrepris, est conforme à son attente. Alors Dieu va répondre. Alléluia. Dieu va répondre. Qu'est-ce que Dieu va répondre? L'Éternel lui répondit, poursuis. Poursuis, car tu atteindras. Poursuis, car tu atteindras. Et après, Dieu rajoute, et tu? Alléluia. Poursuis, car tu atteindras. Et tu délivreras. Vous avez dit que moi, j'ai préparé pour toi le moyen de sortir et c'est moi qui vais t'assurer la victoire. Devant un peuple qui parle de le lapider. Devant un peuple qui le tient pour responsable de la situation. Devant un peuple rempli d'amertume à son encontre. C'est pas rien. Mais il reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel. Deux questions. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Poursuis! Première Réponse. Ça veut dire, au point où tu es, va plus loin. Continue. Avance. Poursuis. Et en poursuivant, différence avec Élie dans le désert, qui était dans l'errance. Après une journée de marche, il s'assoit sur un genêt. Je lui dis, poursuis. Car tu atteindras. Et Dieu lui montre ce que va produire le résultat de la poursuite et le résultat de l'atteinte. Tu délivreras. Ah oui, je crois que une fois que Dieu te dit ça, tu sors du découragement, tu bombes le torse. Et puis là, tu avances. Maintenant, c'est pas ta force à toi. C'est pas ta force qui te donne à poursuivre. Cette détermination ne vient pas de toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui te gonfle à bloc. Parce que Dieu t'a parlé. En te parlant, il t'assure la victoire. Ce matin, le Saint-Esprit voudrait t'assurer que la porte de sortie du découragement, le bout du tunnel, Dieu le met devant toi. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur connaît chaque brebis et il sait agir au bon moment pour pouvoir donner le secours. Alors voilà le résultat. Voilà le résultat, chers amis, frères et sœurs en Christ. Cela se trouve dans le verset 17. David les battit, tous ceux qui s'opposaient à lui. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté quatre jeunes gens qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Verset 18. David sauva tout. Ah. Tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua, dites avec moi. Mais c'est la main de Dieu qui agit. Quand la main de Dieu est en action, il ne se perd absolument rien. Pourquoi ? Parce que David a consulté l'Éternel. Parce que Dieu lui a parlé. Parce qu'après avoir revêti les fautes, eh bien, il est dans la révélation de ce que Dieu a préparé. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Dites avec moi, David ramena tout. David ramena tout. Pourquoi? Je lui ai dit, poursuis. Tu vas poursuivre. Tu vas atteindre et tu vas délivrer. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait, frères et sœurs en Christ, lorsqu'il voit que son enfant s'appuie sur lui. Lorsqu'il voit que son peuple s'appuie sur lui. Lorsqu'il voit que l'Église s'appuie sur Jésus-Christ. Alors Dieu agit. Merveilleux Sauveur, que ton nom soit béni ce matin. David ramena tout, verset 20 pour conclure. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête. Disaient, c'est ici le butin de David. Mais je me suis laissé dire, en regardant l'attitude de David, il aurait pu négliger le menu ou le gros bétail, mais je crois que derrière son attitude de ramener le menu et le gros bétail, il a surtout pensé que c'était les éléments importants qui devaient servir au sacrifice du Lévitique. Et en ramenant le menu, le gros bétail, des brebis, des bœufs, des taureaux, il a pensé au travail du sacrificateur qui devait officier dans le sanctuaire afin que Dieu soit glorifié
dans ce qu'exigeait la loi, dans la pratique de la sacrificature. Alléluia. Oh, je ne sais pas pour vous ce matin, mais le Seigneur est en train de faire un grand bien à mon âme. Oh, rassurez-vous, je ne suis pas dans le fond du tunnel du découragement. Mais peut-être que ce matin, c'est ton cas. Et si ce n'est pas ton cas ce matin, Dieu te donne déjà un enseignement eu égard à ce à quoi tu pourrais être confronté dans le futur. Parce que notre Seigneur a cette capacité d'anticiper aux choses auxquelles nous pouvons être exposés dans notre marche comme enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce soit le partage de nous tous. Ce n'est pas la peine que je vous tienne trop longtemps puisque je crois que le Saint-Esprit, il a su faire le travail. En ce peu de temps, il a su faire le travail. Alors pour ma part, avant de laisser la place à la Sainte Cène, comme je l'ai fait ce matin, je voudrais laisser un petit espace afin que toi, mon frère, ma soeur, qui peut-être passe par un moment particulier dans le découragement et qui avait besoin de recevoir cette parole du Seigneur, eh bien, Dieu t'amène maintenant devant la porte de sortie du découragement dans lequel tu te retrouvais depuis déjà un petit moment. Vous avez remarqué que je parle à l'imparfait. Tu te retrouvais parce que je vois déjà que tu es déjà sorti. Alors, veux-tu te mettre debout en signe de témoignage pour montrer au Seigneur que sa parole maintenant, tu l'as fait tienne et tu lui demandes maintenant qu'il accomplisse en ta faveur ce qu'il a dit. Mets-toi debout. Oh Dieu, tu es notre Père ce matin. Et tu connais, mon Dieu, chaque situation. Tu connais chaque brebis de ton pâturage. Tu connais la brebis fatiguée, tu connais la brebis lassée, tu connais la brebis découragée, tu connais la brebis blessée. Mais c'est toi qui, comme le bon berger, te définis comme étant le bon samaritain. Et tu as toujours avec toi, dans ton outre, de l'huile et du vin. Et Seigneur, tu sais manipuler ces éléments, les utiliser plutôt, mon Seigneur, au bon moment et à bon escient. Alors maintenant, voici tes enfants devant toi ce matin, Père. Que dans ta grâce, toi qui les as rachetés au prix de ta vie au moyen de ton sang, tu œuvres par la puissance du Saint-Esprit, Père. Ce n'est pas devant le pasteur qui se sont mis debout, mais c'est devant toi qui sont debout. Seigneur, leur attitude debout montre véritablement, eh bien, non seulement leur situation, mais le besoin de leur cœur. C'est-à-dire de recevoir de toi la capacité, Seigneur, d'être, mon Seigneur, libéré de l'angoisse, de la lassitude, de la fatigue spirituelle, du découragement. Mon Seigneur, s'il te plaît, que par le Saint-Esprit ce matin, Seigneur mon Dieu, ils soient renouvelés, que la vie de l'Esprit soit renouvelée en eux et que ton secours, mon Dieu, leur soit donné comme seul tu es capable de le faire. Bon berger, nous te bénissons ce matin. Merci parce que c'est toi qui, Père, entends le cri de ton enfant. Et quand tu entends le cri de ton enfant, mon Seigneur, tu ne fermes pas tes entrailles, mais tu uses à son égard de miséricorde. Et ta miséricorde, mon Seigneur, s'accompagne des fois de ta compassion. Et tu es celui qui est capable de relever d'une manière particulière, d'une manière efficace, Père. Alors au nom de Jésus, ton Fils, qu'il en soit ainsi pour tes enfants ce matin, Père. Que ta grâce soit leur partage comme ils espèrent en toi. Et que ta main soit sur eux comme un manteau qui les recouvre, mais aussi comme un bouclier qui les protège, Père. Tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je vous bénisse. Laisse la place au pasteur Célestine pour la suite.